France Inter.
The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed for not having the courage to do what's right for our country.
Il y a quelques heures, il a très honte du jugement sur les droits de douane des juges de la Cour suprême en majorité conservateur et que pour certains, il a même personnellement nommé. Ce jugement, il est très décevant, dit le président des États-Unis. On a envie de dire « for sure ». Depuis 10 jours, on commençait à voir des lézardes dans le mur protectionniste de Trump. À l'heure des premiers bilans, il y a eu cette étude de la Banque centrale de New York, par exemple, qui a établi que 90% de ces taxes est réglée par les Américains eux-mêmes, ménages et entreprises. Ensuite, il y a 2 jours, on a aussi eu le chiffre du déficit commercial en 2025, niveau record, alors que tout le sujet était de rendre les produits étrangers moins attractifs. Après les fissures, on observe donc la faille. Le grand théâtre du 2 avril 2025, le Liberation Day, le président américain sur la pelouse devant la Maison Blanche avec son grand tableau des punitions. Tout cela, sans autorisation du Parlement américain, était illégal. Trump instaure donc maintenant une nouvelle taxe mondiale de 10%, mais son décret ne peut durer que 150 jours, alors qu'il a terriblement besoin de cet argent dans les caisses. Se posent donc des questions vertigineuses sur la planète éco. La Maison Blanche a-t-elle un plan de secours? A-t-elle un autre bâton pour effrayer ses partenaires? Quid des accords commerciaux de ces derniers mois? 1 millier d'entreprises a déjà porté plainte. Faudra-t-il que Washington rende 185 milliards de dollars? En tout cas, les seuls qui ne récupéreront pas leur pouvoir d'achat perdu, ce sont bien les consommateurs américains. Ils ne pourront sans doute rien faire, sauf voter aux midterms et compter sur la solidité de leur état de droit.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
C'est le magazine de France Inter qui parle de l'économie comme on la vit et comme on la veut. Tout l'équipage vous souhaite la bienvenue à bord. Valentin Pérez, Étienne Bertin, Anne-Cécile Perrin, Emma Bouvier, Pauline Laverdure au mix et Thilaï Ravout à la technique. À quelques jours des Césars, notre invité, c'est le président du Centre National du Cinéma qui est au cœur du modèle économique du 7e art français. Netflix, TikTok, intelligence artificielle, il y a des menaces, il y a des défis, il y a des coups de griffe politiques aussi ces derniers mois pour le CNC. Comment entretenir le goût des salles obscures? Est-ce que l'exception française risque l'extinction? Ce sera l'entretien avec Gaëtan Bruel vers 9h40. Et cela sera suivi d'une chronique sans laquelle cette émission ne serait pas la même. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Les nécessaires explications de Madame Vieauxboulot. On a encore une fois une maman inquiète qui vous a écrit, Sandrine, depuis Villemur-sur-Tarn.
Oui, le fils de Valérie travaille dans une toute petite entreprise. Sa chef l'insulte, tient des propos racistes, islamophobes et à caractère sexuel. Toute la panoplie, en fait. Comment arrêter ça sans devoir quitter son boulot? On essaiera de vous apporter des réponses.
Équation compliquée. Les réponses juste avant 10h. Mais tout de suite, le débat de la semaine, c'est avec Marc Vigneault, notre spécialiste des finances publiques au quotidien L'Opinion. Bonjour Marc.
Bonjour Alexandra.
Et l'économiste Ludovic Subran. Bonjour Ludovic.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes le directeur des investissements de l'assureur Allianz. Ça veut dire que vous avez une perspective mondiale. Ça veut dire que, bien sûr, je vous demande votre regard sur l'épisode droits de douane illégaux, l'actualité de ces dernières heures.
Bah c'est un match retour incroyable parce que ça pose plein de questions d'argutie juridique, c'est-à-dire qui va rembourser à qui. On pourrait passer du temps à expliquer un peu ce qui se passe parce qu'il a utilisé, il y a une partie de la loi qui a été désavouée par le Conseil constitutionnel, enfin la Cour suprême américaine, mais il a utilisé maintenant une autre section dont vous parlez, la 122. Il peut utiliser la 232, donc il y a plein de choses à faire. Ce que ça pose comme question pour un économiste comme moi, c'est ça veut dire qu'il y a eu un gros transfert de richesse des consommateurs américains vers les entreprises qui ont payé des droits d'un État. Vous rappelez, ils voulaient rembourser. Hein. On parle d'à peu près 200 milliards.
Oui, je disais 185 milliards de dollars. Ouais, on n'a pas le chiffre tout à fait exact.
C'est à peu près ça. Nous, on a calculé à peu près 200 milliards. Et donc, ça veut dire que le consommateur s'est appauvri. Les entreprises ont refait leur marge. Là, elles ont payé ensuite. Là, ils doivent rembourser aux entreprises. Et donc, dans un moment où l'inflation américaine était élevée, là, elle va peut-être un peu baisser. Mais c'est un moment où le déficit public, vous parlez du déficit extérieur tout à l'heure, qui est énorme. Le déficit public, il va monter à 8%. Ils doivent tout rembourser. Et donc, tous ces sujets de stabilité financière, de risque, de crise américaine, à mon avis, augmentent. Et donc, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est la suite sur l'économie américaine qui a déçu hier avec le PIB et qui, là, va devoir être encore plus bercée ou biberonnée à la dette publique pour rembourser les effets de cette décision juridique. Et donc, ça augmente un risque de crise américaine sur les marchés et aussi dans l'économie très fortement pour les prochains mois.
Ok, ça n'est pas très réjouissant. En tout cas, ce n'est pas la preuve d'une très bonne stratégie économique, politique économique. Marc Vigneault.
Alors, du point de vue des Européens, il y a quand même une question qui se pose. C'est qu'est-ce que va faire le Parlement européen qui devait, je vous rappelle, baisser les droits de douane sur les produits industriels américains, hein. C'était une des conditions qu'avait posées Donald Trump. Et donc, il devait valider ça en commission du commerce international mardi. Et donc la question c'est, est-ce qu'ils vont le faire quand même ou est-ce que, étant donné que Donald Trump a un peu son bâton qui est un peu cassé pour l'instant, est-ce qu'on va essayer de résister? Donc
voilà. Pour l'instant, les déclarations sont prudentes des pays sur la planète.
Et je trouve que toutes les déclarations ont aussi une pointe d'ironie. Elles disent toutes, en fait, on attend de voir, on comprend pas.
Oui.
Et donc, en fait, il est pris à son propre piège. C'est-à-dire que l'instabilité des barrières douanières, maintenant, se retourne contre lui. Hein, c'est l'arroseur arrosé. Mm. Parce que maintenant, tout le monde dit, oh ben, on sait pas vraiment où ça en est. Mm. Et donc, personne veut négocier avec quelqu'un qui est pas stable.
Ah oui, parce que ces nouveaux tarifs, c'est pour l'instant, c'est pour 6 mois. Hein, et après, le Congrès américain doit valider ces tarifs de 10%.
Mm. Et il y a les mid-terms.
Et il y a le midterm en novembre.
Il y a une grande chance que le Congrès soit pas à sa boîte. Voilà. Ouais.
Ah, quel feuilleton. Bon, allez, retour en France avec le chiffre, un autre chiffre qui nous a, qui nous a totalement intéressés tous cette semaine. 13 335. En France, plus de 13 000 foyers très aisés, c'est-à-dire avec un patrimoine supérieur à 1 300 000 euros, ne paient pas d'impôt sur le revenu. C'est ce qu'avait évoqué l'ancien ministre de l'économie, Éric Lombard. On avait cru comprendre que la ministre des Comptes publics n'était pas d'accord. Et là, on a une note du Sénat, qu'on va vous décortiquer, qui éclaire encore cette belle controverse. Est-ce que la France ne s'est pas imposée les plus aisés d'entre nous? Est-ce qu'on nous cache tout? Est-ce qu'on nous dit rien? Si vous voulez vous faire une idée, c'est maintenant.
11 janvier.
Nous savons que de plus en plus se sont développées pour un certain nombre de personnes ayant des revenus importants et des patrimoines importants, des techniques légales, mais qui permettent de baisser fortement la base fiscale.
Éric Lombard, ancien ministre de l'économie.
S'il y a un écart trop important entre les revenus déclarés et le patrimoine que nous le connaissons, ça veut bien dire qu'il y a suroptimisation, c'est le langage que nous utilisons, et cela doit être corrigé.
Les yeux dans les yeux, il n'est pas vrai que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu.
Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics.
Il n'y a pas de document à Bercy qui le montrerait. Et si c'était le cas, cela fait bien longtemps que cette situation aurait, un, été dénoncée, deux, corrigée.
Mais faites des contrôles fiscaux. J'ai envie de dire aux gens de Bercy, s'il y a des gens qui trichent, faites votre boulot ou quoi?
Geoffroy Roux de Bézieux, président d'honneur du MEDEF.
Mais cette espèce de rumeur d'un ex-ministre qui dit comme ça n'importe quoi, si il y a des gens qui payent pas d'impôts alors qu'ils devraient payer des impôts, les règles s'appliquent, quoi. Enfin, je peux pas vous dire mieux, moi.
18 février,
une note de Bercy confirme les déclarations de l'ancien ministre de l'économie, Éric Lombard. 13 335 foyers parmi les plus riches disposant d'un patrimoine immobilier d'au moins 1 300 000 euros ont déclaré en 2024 un revenu fiscal de référence égal à zéro.
On ne parle pas de fraudeurs fiscaux. En fait, on est à la crête de la légalité et de l'illégalité.
Sandra Demarque, secrétaire générale du syndicat solidaire Finances publiques.
C'est une certaine zone grise, mais tout est légal. Et ça, c'est les lois fiscales qui ont été menées et adoptées depuis un certain nombre d'années qui permettent cette anomalie.
Il y a plusieurs mécanismes parfaitement légaux.
Éric Pichet, professeur d'économie et de finance, Cage Business School.
Le principal, c'est de créer une société qui détient une partie du patrimoine immobilier, qui va toucher les loyers et qui va laisser les loyers dans la société. Donc, la personne physique ne touchant pas de revenus ne paiera pas d'impôt sur le revenu.
Et ces révélations, c'est que la partie émergée de l'iceberg.
Gabriel Zucman, économiste, directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité.
Mais ça ne nous dit rien du problème plus gros encore, qui est celui des grandes fortunes financières, en particulier des propriétaires d'entreprises, des centimillionnaires, des milliardaires qui ne payent pas ou presque d'impôts sur le revenu.
Allez, il est le temps de regarder cette note du Sénat, Marc Vigneault, c'est vraiment votre dossier. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur ces 13 335 foyers très aisés qui ne paient pas l'impôt sur le revenu ?
Bah, elle nous dit que en France, il y a des gens qui payent l'IFI, qui ont un gros patrimoine, mais qui n'ont pas
impôt
forcément
sur la fortune immobilière.
Un gros patrimoine immobilier, en l'occurrence, et qui n'ont pas forcément les revenus qui vont avec. La question, c'est de savoir dans quelle proportion ces gens utilisent de l'optimisation fiscale agressive via des holdings et ce qu'on appelle le régime d'apport-cession, on pourra y venir. Ou est-ce que c'est des gens qui sont retraités et qui ont acheté une résidence principale à Paris? On sait qu'il y a beaucoup de ces foyers qui sont concentrés à Paris. Il y en a 3300 sur 13 000. Et donc, est-ce qu'ils ont bénéficié d'une augmentation très forte des prix de l'immobilier? Est-ce qu'ils ont pu acheter au cours de leur vie une résidence secondaire? Et si c'est le cas, eh bien, ils peuvent être non imposables parce qu'ils cumulent des crédits d'impôt. Vous faites un emploi à domicile, vous faites un investissement exonéré. Vous avez une année, une plus-value de cession qui est exonérée et bon, vous rentrez dans les statistiques de Bercy. Et donc, il y a des chiffres très intéressants d'un économiste qui s'appelle Antoine Lévy qui a calculé que...
Il est à Berkeley, il est aux États-Unis, c'est
ouais, ça ? Oui, il est aux États-Unis, il est plutôt libéral. Et il dit bah, deux retraites à 27 000 euros. Donc 27 000 euros, c'est à peu près, c'est quand même pas des retraites énormes, hein, c'est 2 200 euros par mois par personne. Si vous faites un peu d'emploi à domicile, même si vous touchez des petits loyers d'un rendement avec du rendement locatif, eh ben très rapidement, vous pouvez être non imposable. Et si vous avez hérité de biens qui ont pris beaucoup de valeur, bah vous êtes non imposable sans qu'il y ait aucun mécanisme d'optimisation fiscale. Et donc moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que le Sénat va obtenir a priori les données qui permettront de faire la part entre les gens qui optimisent de façon très agressive dans les holdings et la part des gens qui juste bénéficient du système fiscal et n'ont pas des gros revenus. Et ça sera très intéressant à regarder. Et là, il faudra aller taper l'optimisation fiscale en essayant de prendre le moins possible un marteau pour écraser une mouche. Parce que si vous en prenez aux holdings et que les holdings, ça sert quand même à quelque chose dans l'économie, voilà, il faut donc lutter contre l'optimisation fiscale sans casser non plus tout le système.
Ludovic Subran, est-ce que ce chiffre 13 335 foyers très aisés qui ne paient pas d'impôt sur le revenu, il vous a surpris ? Et quelle question, comment vous le regardez, comment vous le saisissez ? Parce que c'est quand même, là Marc est très calme, mais c'est quand même une petite controverse, on va dire.
Oui, mais c'est comme la controverse des pêcheurs de l'île de Ré, c'est-à-dire que le sujet de fond pour moi, c'est toujours la taxation du capital contre la taxation du travail. On a une société vieillissante, on a eu des taux zéro pendant plus de 10 ans, des patrimoines immobiliers qui sont enflammés, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne sait pas récupérer un peu de ces plus-values. Hein. Je rappelle qu'en France, par exemple, il y a une exonération totale des plus-values sur la vente de résidence principale. On peut discuter si c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Moi, je pense que le problème qu'on a, c'est que on a pendant très longtemps augmenté la fiscalité du travail, et aujourd'hui le travail ne paie plus. Et donc maintenant, bah, chaque moment où on a 1000 personnes, 13 000 personnes, donc Zuckman, les millionnaires qui ne paient pas l'IR, les pêcheurs l'île de Ré, je pense que les Français se disent il y a un problème dans le pacte social. Et c'est parce que la société vieillit et que c'est vrai, je rappelle qu'un autre tabou, la taxe sur l'héritage. En France, plus de 60% des héritages ont lieu après 60 ans. C'est un moment où, en effet, vous allez accumuler davantage. Et puis, les retraites. Bon, donc moi, c'est plutôt ça qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on ne veut pas voir l'éléphant au milieu de la pièce. C'est-à-dire que si on veut refaire fonctionner la solidarité nationale, on est un pays qui taxe beaucoup aujourd'hui, on ne va pas se leurrer. Il faut baisser les dépenses, ok, on ne va pas non plus le répéter 20 fois, mais sur la fiscalité, il faut revoir complètement le bousin. Aujourd'hui, ça ne marche plus.
Je suis totalement d'accord avec Ludovic. Ce qu'il faudrait, c'est s'en prendre à une disposition qui est un peu technique, mais ce qu'on appelle l'effacement de la plus-value latente après au moment
alors
de la succession.
Alors là, il va falloir nous aider.
C'est-à-dire que quand vous avez acheté une action 20 euros et que à l'héritage, cette action vaut 100 euros, vous n'êtes pas, et que le successeur revend l'action à 120 euros, il est imposé la personne qui revend l'action entre 100 et 120 sur la plus-value de 100 et 120, alors que ses parents l'ont acheté, cette action, hein, on avait dit 20 euros. Et donc ça, c'est un mécanisme qui permet d'échapper à la taxation de la plus-value. Et donc ça, ça serait une mesure à remettre en cause, parce qu'en fait, ça allait de pair avec l'idée qu'on taxait beaucoup les successions à 45% de taux marginal, mais sauf qu'en fait, il y a tellement de mécanismes pour optimiser qu'à la fin, la taxation effective de ce patrimoine pour les personnes les plus riches tombe à 10%. Et donc moi, je trouverais ça très bien qu'on remette en cause cet effacement de la plus-value latente. Je ne comprends pas pourquoi les politiques font des choses avec voilà.
C'est comme le déficit foncier. C'est-à-dire que moi, là, vous êtes sur le patrimoine financier, c'est un vrai sujet. Moi, le patrimoine immobilier, ça m'inquiète le plus, parce que c'est vraiment là où il y a des inégalités énormes. Et c'est normal. Les gens, on a un pays où c'était important d'acheter un logement et de devenir propriétaire, voire multipropriétaire, d'avoir des revenus locatifs, etc. Aujourd'hui, je suis désolé.
Il y a des niches fiscales iniques.
Bah ouais, parce que, enfin, franchement, encore une fois, c'est quoi le problème? C'est que quand on est jeune aujourd'hui, on peut plus acheter son appartement. Même quand on est deux cadres, c'est impossible d'acheter un appartement dans la ville dans laquelle on habite. Enfin, faut quand même se rendre à l'évidence. Il y a un truc qui marche plus.
L'ascenseur est bloqué. Vous allez vous heurter à quand même un certain lobby de l'immobilier qui va vous dire que si vous cassez l'investissement locatif, vous allez avoir, ça va être encore pire. Donc je sais pas, voilà. Mais
ça, je dis fake news.
Non, mais pourquoi?
Vu le problème de la crise immobilière, c'est pas un milliard de déficit foncier qui va résoudre le problème.
On va pas aller sur le débat sur la crise de l'immobilier. On reste sur ce débat sur ces foyers les plus riches qui ne paient pas d'impôts sur le revenu. Là, vous nous avez emmené de l'immobilier jusqu'au patrimoine financier. Mais vous parliez du déficit foncier. Quand vous dites, Marc parlait des actions, vous dites, même sur l'immobilier, il y a des niches fiscales qui ne sont pas justifiées, mais il faut expliquer. Tout le monde ne connaît pas le déficit
foncier. Je vous l'explique. Votre fiscaliste vous l'expliquer si vous voulez l'utiliser. C'est-à-dire que si vous achetez des appartements, vous faites des travaux dedans et en fait, vous pouvez déduire les charges de travaux et les charges de votre prêt immobilier du montant des revenus locatifs dans vos impôts. Donc, il y a plein de gens qui ne paient pas d'impôts sur des revenus locatifs parce qu'ils ont mis, comme par hasard, des rénovations et autres charges d'intérêt sur l'appartement. Et donc, forcément, ça leur fait un patrimoine super. Ça fait des retraites à plein de gens. Encore une fois, le dispositif existe. Mais mon problème, c'est on est dans un moment où on a un problème avec l'impôt. Je suis désolé, l'impôt, le travail ne paie plus en France. Entre 60 et 70 000 euros, entre 60 et 80 000 euros de revenus pour un foyer sur une année, l'heure marginale travaillée est désincitative. Vous avez zéro intérêt à travailler davantage. Comment voulez-vous qu'on puisse faire fonctionner ce pays comme ça?
Attention, on est quand même un des pays qui surtaxons le capital quand même. Donc oui, il faut, à niveau de fiscalité, on ne peut pas augmenter un détriment de la fiscalité.
Il faut baisser les dépenses. C'est pour ça que j'ai dit, parce qu'après les gens disent ah oui, il faut taxer la mort, taxer tout. Non, baissons les dépenses.
Enfin, attendez,
sur la taxation,
là vous nous avez montré qu'il y avait des défauts majeurs dans.
Il y a des niches fiscales.
Moi je dis, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. Ces histoires de les 13 000, les machins, les pêcheurs de l'île de Ré, en fait c'est pas ça le problème.
Ludovic Subran et Marc Vigneault, ils ont fait le débat dont n'arrête pas l'écho.
La déindustrialisation
Et ailleurs, comment ça se passe? On part sur une toute différente planète écho ce matin, direction Moscou.
В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. И речь идет о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.
On le laisse parce que le russe, c'est très beau quand même. Vladimir Poutine s'adresse à l'équivalent du MEDEF russe. C'était l'année dernière. Il dit « Récemment, les forces de l'ordre ont ouvert plusieurs enquêtes visant à restituer certains actifs à l'État. Il s'agit plutôt de cas où les actions ou l'inaction des propriétaires d'entreprises ou de complexes immobiliers porte, c'est ça qui est important, directement atteinte à la sécurité du pays et aux intérêts nationaux. C'est vraiment l'une des rares fois où le président russe a justifié que le Kremlin saisisse des entreprises privées, et cela de plus en plus. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial permanent de France Inter en Russie. Sylvain, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a 4 ans, ce sont des dizaines d'entreprises qui ont été confisquées à leurs propriétaires.
Oui, c'est une vague qui a débuté au début de la guerre et qui s'amplifie en Russie. En 4 ans, l'État russe a saisi plus de 40 milliards d'euros d'actifs de façon autoritaire, sous divers prétextes, parce qu'il en va de la sécurité de l'État, pour des affaires de corruption ou parce que le Kremlin juge que la gestion de l'entreprise en question par ses propriétaires est inefficace. Dans la liste des entreprises saisies, il y a des sociétés d'armement, là on comprend bien quel est l'objectif du pouvoir, des entreprises étrangères aussi, qui cherchaient à quitter la Russie et que Moscou a sanctionné comme ça, mais il y a aussi un producteur de pâtes alimentaires, un concessionnaire automobile, une société de pêche, a priori moins stratégique. Alors, pourquoi ont-ils été saisis ? Eh bien, parce que leur propriétaire était jugé non fiable, ce qui veut dire pas suffisamment proche du Kremlin. C'est le cas du concessionnaire automobile, par exemple, qui appartenait à un ancien député qui avait eu le malheur de critiquer la politique du pouvoir. Ces saisies ont lieu bien souvent sans indemnité. L'État s'approprie les entreprises, ce qui lui permet de renflouer ses caisses. Et ça tombe bien parce que l'État russe a grandement besoin d'argent en ce moment. Ou alors, parfois, il revend les activités à des hommes d'affaires fiables. On sait que Yuri Kovalchuk, le banquier de Poutine, comme on l'appelle, ou Arkady Rotenberg, un autre proche du président, ont bénéficié de ces saisies. Rotenberg a récemment racheté à vil prix l'aéroport moscovite de Domodedovo, qui avait été confisqué à ses propriétaires accusés de suivre la politique agressive de l'Occident.
Et voilà qui jette une lumière crue sur la réalité de l'économie en Russie, au moment où, Sylvain, Moscou essaie d'appâter Washington en lui promettant des projets communs pour 14 000 milliards de dollars, ça fait un peu moins de 12 000 milliards d'euros. Bref, c'est une promesse stratosphérique.
Oui, promesse aussi stratosphérique que fantasmagorique hein, pour l'instant. Ce qui semble se dessiner, effectivement, c'est que du côté du Kremlin, on semble vouloir jouer sur l'amour du deal de Donald Trump pour obtenir la levée ou au moins l'assouplissement des sanctions qui pèsent lourd hein, sur l'économie russe. D'où cette petite musique qu'on entend ici à Moscou. Si les Américains veulent revenir en Russie, il y a beaucoup d'argent à faire ici. La semaine dernière, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a encore affirmé qu'il y a des entreprises américaines prêtes à revenir sur le marché russe. La réalité, c'est qu'on n'en a vu aucune encore. Je me souviens du dernier forum économique de Saint-Pétersbourg où on nous avait dit qu'on allait les voir et on n'a vu personne parce qu'il est clair que la Russie reste un marché hautement risqué où même l'État, on le voit, ne vous garantit pas que vos actifs sont en sécurité.
Sylvain Tronchet avec nous, l'analyse de Moscou. (Rire) 9h36 sur France Inter, les Césars approchent. On parle de cinéma maintenant. Ce sera jeudi prochain, cette cérémonie. Dans moins de 10 minutes, le président du Centre National du Cinéma sera dans ce studio. Question à Gaëtan Bruel sur l'avenir de cette industrie phare de la France, à laquelle, vous le savez, le Covid a apporté un coup et depuis, le cinéma peine à se relever. Quel avenir pour les salles obscures? Quelle stratégie pour capter les spectateurs? L'une d'elles, c'est la montée en gamme, ce que le marketing appelle la premiumisation. Ça se voit dans les grandes villes, mais ça existe aussi à la campagne. Et ce matin, notre reporter Anaëlle Verzo nous emmène près de la forêt de Fontainebleau, à Varennes-sur-Seine, 3750 habitants et un beau cinéma. Il s'appelle Confluence. Son exploitant Cédric Aubry est indépendant. Il vient de tout refaire à neuf. On va entrer alors... Chut.
C'est un très grand écran.
Donc là, c'est la très grande salle. Et puis à l'issue de la séance, on va... Il y aura un petit débat autour du film.
Il y a combien de places dans cette salle ?
240.
Et là, on voit des sièges très larges, qu'on peut donc incliner ?
Oui, c'est ça, électriquement.
Je fais le test, hein. On est bien, là.
Au sortir du Covid, on s'est beaucoup interrogé de ce qu'il fallait faire. Et l'idée, ça a été de monter en gamme, redonner un petit effet waouh, un effet de confort. On s'est dit, allez, on va aller jusqu'au terme qui, pour moi, était a priori un vilain mot, mais qui ne l'est pas tant que ça. C'est on a premiumisé le cinéma. Et on a ce qu'on appelle des salles immersives. Donc le son qui arrive de partout, du plafond et autres. Ouais. On a des fauteuils électriques. Et ça a coûté un petit peu de sous.
Ça a coûté combien ?
La rénovation complète, ça a coûté 1 800 000 euros. Soyons clairs, j'ai un crédit qui doit être d'1 200 000 euros sur 10 ans, donc c'est énormément d'argent, c'était un pari, mais c'était un pari nécessaire hein, parce que entre 2019 et 2024, sur Varennes, on a perdu 50 à 60 000 entrées, et donc l'idée c'était comment recréer cette dynamique de fréquentation.
Est-ce que depuis vous avez observé une hausse de la fréquentation de ce cinéma ?
Alors oui, tout en ayant une frustration, puisque comme tout le monde le sait, l'année 2025 a été une très mauvaise année cinématographique au niveau national. Et donc du coup, l'année 2025 à Varennes, on a baissé moins que les autres. J'étais aussi ambitieux parce que on a très très peu augmenté les prix. Et donc 1,8 million d'investissement avec des prix de place à 7,50 €, il va falloir en vendre un petit paquet. Il faut que pendant 10 ans, la fréquentation à minima se stabilise là où elle est et qu'elle progresse légèrement, ce qui me semble très raisonnable comme réflexion.
Écran agrandi ou panoramique, son immersif spécialisé, siège à effet sensoriel pour imiter le vent, la pluie, la fumée ou même des odeurs. Comme le cinéma Confluence de Varennes-sur-Seine, d'autres salles françaises ont fait le choix de se premiumiser ces dernières années.
Il faut faire attention aussi, il y a beaucoup de salles premium en France. Ça représente que 4% des entrées, mais on en parle beaucoup.
À Paris, Arnaud Surel est le directeur général de Maison du Lac Cinéma. Je le retrouve à l'Arlequin, une des salles de son réseau, à deux pas de Saint-Germain-des-Prés.
Et c'est dans la grande salle, la salle numéro 1.
Merci.
Lui a opté pour une stratégie moins coûteuse, faire du cinéma un espace plus polyvalent.
On vient de s'installer dans une salle magnifique, hein, ouais, tout en dorure.
C'est très New York années 50. Hein. C'est un cinéma qui a du matériau noble, vous avez du bois, vous avez un piano, vous avez un bar. Hein, voilà. Le plus important, c'est le film. Les gens viennent pour le film, avant tout. Donc vous pouvez imaginer la salle la plus extraordinaire possible. Si le film ne leur plaît pas, ils ne viendront pas. Après, le décorum, l'endroit, oui, ça fait partie de l'envie d'aller voir un film. On fait à peu près 35 ciné-clubs, on a 25 festivals, c'est plein. Ça cartonne. On fait des soirées à thème, on fait des soirées girly, on fait des soirées événements en films d'horreur, on fait des reprises. Et plus vous faites des animations en salle, plus ça marche. Là, par exemple, chez du Lac Cinéma, Reflet Médicis, on a organisé une soirée Twin Peaks sur un triste anniversaire qui est la mort de David Lynch. Et donc, en fait, on a fait une soirée à thème déguisé. Beaucoup de spectateurs sont venus en costumisé. On vendait des tartes, comme dans la série, des tartes à la cerise, des goodies, des affiches, des Blu-ray. On avait mis des fumigènes dans la salle. Il y avait une ambiance vraiment avec les BO de Lynch qui passaient. Et on était archi complet. Et ça a été rentable parce qu'on a vendu aussi, justement, des tartes, des cafés. Donc, c'est quelque chose qu'on refera. On nous a demandé, c'est quand la prochaine ?
Malgré ce genre d'initiative, les salles françaises sont fragiles. L'an dernier, 10 d'entre elles ont définitivement fermé. Pourtant, les cinémas attirent aujourd'hui de grands investisseurs. Depuis cet automne, Vincent Bolloré a pris 34% du capital du réseau UGC à travers le groupe Canal+, qu'il contrôle. Le milliardaire devrait s'en emparer entièrement d'ici à 2028. De son côté, Rodolphe Saadé, le patron de l'armateur CMA-CGM, sixième fortune française, est entré au capital de Pathé à hauteur de 20%. Deux opérations financières orchestrées par BNP Paribas. Je me rends dans les locaux de la banque d'investissement, près de l'Opéra Garnier, pour rencontrer Henri de Roquemorel. C'est lui qui a mené les négociations.
UGC et Pathé sont deux acteurs majeurs de l'industrie. Il y avait des besoins d'investissement dans les deux réseaux et ils cherchaient des partenaires. Bon, on les a aidés à trouver des partenaires. Et le but était surtout de trouver des partenaires pertinents qui sachent de quel métier on parle. On ne peut pas discuter de la connaissance de Canal+ sur le cinéma. C'est le premier investisseur du cinéma français. Et puis CMA-CGM aussi qui a une bonne connaissance de ces métiers déjà de longue date. Les deux opérations ont pour objectif de leur donner de la capacité d'investissement complémentaires pour rénover leurs salles et se développer aussi en Europe demain. Parce que le cinéma européen est plutôt en moins bonne forme que le cinéma français. Et le cinéma français a un vrai rôle à jouer au niveau européen. On est le premier marché de très loin. On a des industries en Italie, en Espagne, qui sont beaucoup plus petites, qui ont besoin de se structurer. Espérons demain que nos groupes deviennent un peu plus européens.
D'après vous, vous qui avez mené les opérations, pour quelles raisons est-ce que Canal+ s'intéresse à UGC et Rodolphe Saadé s'intéresse à Pathé ?
Alors, on fait des investissements à long terme aux côtés de Canal+ et de CMA parce qu'on y croit. Nous, aujourd'hui, pour l'année 2026, on prévoit 185 millions d'entrées puisque les films qui arrivent, c'est ceux qu'on a financés il y a 2 ans. Pour la France et puis pour les États-Unis, une bonne partie, c'est même il y a 3-4 ans. Donc on a une visibilité sur ce qui va se passer en 2026, un retour de franchises de premier plan, des films français avec de très gros investissements qui vont forcément générer une fréquentation significative. Donc on est très confiant pour l'année 2026 et l'année 2027.
Derrière ces prises de capital, chaque investisseur poursuit aussi sa stratégie. CMA-CGM cherche à renforcer son influence dans les médias et le divertissement. La chaîne Canal+ y voit l'opportunité de soutenir les films qu'elle finance jusqu'au bout de la chaîne de valeur, production, distribution et désormais exploitation en salle. Mais tout cela reste un pari, celui de l'attractivité de la salle obscure face à tous les écrans du quotidien. Julien Jourdan a été directeur financier du géant américain Warner Bros. Il enseigne aujourd'hui à HEC.
2025 par rapport à 2019, on a perdu un quart des entrées en salle en France. Aux États-Unis, c'est moins 40% sur la même période. En Chine, c'est moins 40%. La concurrence, elle n'est pas qu'avec Netflix, avec le streaming. Il y a aussi une concurrence pour le temps. C'est-à-dire qu'on est tous accaparés par un certain nombre de médias qui prennent de notre temps. Aujourd'hui, en France, selon les statistiques du CNC, on regarde 3 heures par jour des offres de streaming. Mais on regarde aussi, en moyenne, 1 heure par jour TikTok, 40 minutes par jour YouTube. Il y a évidemment la télévision qui reste dans le paysage. Donc, le public des salles de cinéma a tendance à s'étioler. C'est une tendance lourde et qui n'est probablement pas arrivée à son terme. Est-ce que ça veut dire que la salle va disparaître? J'aime bien la prédiction qu'avaient faite Steven Spielberg et George Lucas en 2013. Une grande partie des films de cinéma irait vers ce qu'ils appelaient la télévision d'Internet. Donc, c'est Netflix, si vous voulez, ou le streaming. Donc, il y aurait moins de films de cinéma en salle, que l'expérience du cinéma serait plus proche de ce que peut connaître quelqu'un qui va voir une pièce à Broadway, par exemple. Donc, un grand spectacle, probablement un peu plus cher que ce qu'on paye aujourd'hui. Et on voit que ça s'est en partie réalisé, dans le sens où il y a aujourd'hui beaucoup de films qui ne sont plus en salle, qui vont directement sur les plateformes de streaming. Un Américain aujourd'hui va 2 fois en salle par an. Il y a 20 ans, c'était 4 fois. Et ça a un effet sur l'exploitation en salle, puisque le nombre d'écrans de cinéma aux États-Unis est en baisse. Alors, c'est pour l'instant une baisse assez contenue, on est à moins 5% depuis 2019. Et ça pourrait s'accélérer avec notamment des exploitants qui ont été en quasi-faillite, qui ne sont pas passés loin de la banqueroute. La question qui va se poser, c'est dans quelle mesure le modèle économique des salles va pouvoir reposer, comme il repose aujourd'hui, sur le cinéma comme principale source de revenus. Le prix du ticket n'a pas beaucoup évolué. En France, il est assez stable. Aux États-Unis, il a quand même pris 23% depuis 2019. Est-ce que des petites salles, entre guillemets, dans des plus petites villes, vont pouvoir continuer à avoir un afflux de revenus tel qu'ils l'ont connu dans le passé? C'est pas sûr.
Premiumisée, convoitée par les milliardaires, la salle de cinéma est-elle encore un actif d'avenir? C'était le reportage d'Anaël Verzo.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
On continue la réflexion avec le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Bonjour et bienvenue Gaëtan Bruel.
Bonjour.
L'année 2025, elle a été morose si on regarde le cinéma français. 157 millions d'entrées, c'est en baisse. On est loin de ce qui se faisait avant le Covid, 200 millions je crois de places vendues. Est-ce que comme l'investisseur qu'on a entendu dans le reportage, Gaëtan Bruel, vous êtes plutôt optimiste pour l'année qui vient et peut-être même pour 2027?
Je suis très optimiste. On fait le meilleur démarrage depuis la pandémie, meilleur mois de janvier depuis le Covid. On a déjà plusieurs films, Marsupilami, 3 millions d'entrées, Affaire Bojarski de 2025 qui dure en 26 plus d'un million d'entrées. En réalité, ce qu'il faut rappeler, en prenant un double recul temporel et géographique, on a fait en 24 une excellente année. 25 un peu moins bonne, 26 ça repart très fort. Le cinéma, c'est une économie de l'offre et donc une industrie cyclique. Mais surtout, ce qu'il faut rappeler...
Quand vous dites une économie de l'offre, ça veut dire que quoi qu'on fasse, et on peut même premiumiser, événementialiser, c'est toujours le film, l'image, les acteurs, ça qui compte?
Ça veut dire qu'effectivement, le cinéma, ça ne marche pas à tous les coups, c'est pas un modèle dont les recettes seraient connues d'avance. Et c'est d'ailleurs ce qui permet à la France de se distinguer. Comparé avec l'Allemagne, quand on a fait 182 millions d'entrées en 2024, les Allemands ont fait 90 millions d'entrées, 2 fois moins, alors que c'est un pays dont la population est plus grande que la nôtre. Comparé avec l'Italie, en Italie, le cinéma italien en Italie, c'est 20% du marché. Le cinéma britannique au Royaume-Uni, c'est 10% du marché. Le cinéma français en France, c'est 40% du marché. Cela veut dire que si vous prenez un peu de recul, comme ça a été rappelé dans le reportage, la baisse de fréquentation est moindre en France que dans le reste du monde, mais surtout les Français continuent d'aller massivement au cinéma et d'aller voir massivement des films français.
Sauf que Gaëtan Bruel, quand on leur parle aux Français, ils râlent toujours, de plus en plus, au sujet de la place de ciné. Ça peut monter jusqu'à 20-25 euros. Moi j'ai fait une petite enquête hier sur Internet, à Marseille aux Trois Palmes, 14,60 € la place, en face de la Maison de la Radio, 17,60 €, donc à Confluence c'est 10,90 €, à Bergerac, le cinéma Cyrano, c'est 11 euros la place. Ils trouvent ça trop cher. Enfin, ils disent qu'ils trouvent ça trop cher.
S'il vous plaît, Rabben Saïd, pas de fake news sur France Inter. Le prix moyen de la place en France, c'est 7,40 euros.
Ouais, mais vous comptez les passes là-dedans, non? Vous comptez les abonnements?
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prix du cinéma, c'est l'inverse de l'aviation low cost. Chez Ryanair, on communique sur des prix très bas, mais la plupart des voyageurs payent beaucoup plus cher. Dans le cinéma, on parle souvent des prix un peu chers, mais la réalité, c'est que la plupart des spectateurs payent moins cher. Si le prix moyen de la place est à 7,40 euros, effectivement, vous êtes à Paris, que le samedi soir, vous êtes dans votre salle à côté et que c'est bip, vous allez peut-être payer 20 euros. Mmh. Même à Paris, faites le test, c'est facile d'aller au cinéma pour moins de 8 euros. La Cinémathèque, par exemple, le tarif plein est à 7 euros. Ça veut dire qu'effectivement, à l'échelle de la France, avec ceux qui ont les tarifs réduits, avec ceux qui ont des cartes à 5 à 10 euros, en France, le cinéma reste l'expérience culturelle la plus abordable. Et il faut aussi le rapporter au coût de production d'un film, au coût d'entretenir ce réseau magnifique qui est le nôtre. Et donc voilà, plutôt que se désoler du prix des places qui a augmenté moins que l'inflation, il faut plutôt se réjouir que le cinéma reste une expérience culturelle très abordable.
Quand les plateformes sont arrivées, on a dit ça va tuer les salles. Mais aujourd'hui, on l'a aussi entendu dans le reportage, est-ce que la menace, ça n'est pas plutôt notre capacité d'attention? Le fait qu'on est tous branchés sur des vidéos ultra courtes et surtout les jeunes, genre TikTok ou Instagram. Est-ce que ça, c'est la grosse menace? Plus que Netflix, finalement?
Le débat en quelques années a complètement changé. Dans les années 2010, on s'inquiétait de la croissance du streaming qui se faisait en partie au détriment de la salle de cinéma. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la réalité, c'est que notre rapport aux écrans, effectivement, constitue, je crois, une catastrophe sanitaire, culturelle, démocratique. En France, un adulte passe 1600 heures par an devant un écran, seulement 5 heures devant un écran de cinéma. Cela veut dire, d'un point de vue économique et culturel, que ça n'est plus streaming qui concurrence le cinéma, c'est l'ensemble des modèles premium, cinéma, télévision, streaming, même jeux vidéo. C'est la première génération de joueurs de jeux vidéo qui est moins nombreuse que la précédente. L'ensemble de ces modèles premium sont concurrencés par des modèles low cost, gonflés à l'IA, tirés par des acteurs étrangers. Et donc aujourd'hui, l'un de nos grands sujets pour la salle de cinéma, c'est de retrouver des spectateurs réguliers. Il se trouve qu'ils sont en partie sur le streaming réciproquement. Parce que quand on aime les œuvres, on ne choisit pas le cinéma à l'exclusion des séries. On va voir des séries, on va au cinéma. Et donc effectivement, aujourd'hui...
Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire au CNC? Parce que vous êtes là, c'est votre job, Gaëtan Bruel, aussi, pour juste essayer de changer le regard sur la vidéo ultra courte et de convaincre, enfin je ne sais pas, d'éduquer, je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous voulez faire, au long métrage.
D'abord, il y a un grand débat, est-ce que le cinéma est foutu ou est-ce qu'il a de l'avenir? Ted Sarandos, patron de Netflix, avait dit « L'avenir du cinéma, c'est celui de l'opéra, celui d'être un genre élitiste et minoritaire. » Au passage, il ne doit pas aller beaucoup à l'opéra parce que on sait que c'est plus que cela. Moi, je pense que l'avenir du cinéma est différent. La réalité, c'est que le cinéma devient aujourd'hui le lieu d'une « digital detox ». Quel est le seul lieu, littéralement, où on éteint son téléphone? C'est la salle de cinéma. Effectivement, la salle de cinéma, peut-être, n'est plus au cœur de la bataille pour l'attention, mais elle est plus que jamais ce lieu d'un autre rapport aux images, un endroit où, par le cinéma, par les œuvres, on s'ouvre à la beauté du monde, on construit un rapport à la vérité, aux autres, et donc le CNC agit pour remonter la fréquentation, et plus largement pour montrer que le cinéma et les œuvres sont le meilleur antidote face à cette catastrophe qu'est notre rapport aux écrans. Mmh.
Parlons des aides que vous distribuez, parce que environ 800 millions d'euros par an, ce sont les aides que vous distribuez. Elles ont été pointées du doigt pendant le débat budgétaire qui vient de s'achever, avec, on s'en souvient notamment, cet amendement du Rassemblement National qui voulait supprimer le CNC. Et puis derrière ça, l'idée que soutenir des films qui font peu d'entrées, bah finalement, c'est gâcher de l'argent public. C'est comme ça qu'on l'a entendu. Est-ce que vous vous attendiez à ce débat sur l'existence du CNC? Vous fêtez vos 80 ans cette année.
En partie non, parce que le CNC qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, qui doit beaucoup à André Malraux, sous le général de Gaulle, qui a été continuellement soutenu, amélioré par les gouvernements de droite et de gauche, c'est l'une des plus belles réussites françaises. Il faut rappeler qu'il y a trois domaines dans lesquels la France est dans le top 3 mondial avec la Chine et les États-Unis. Les exportations d'armement, le nombre de réacteurs nucléaires et le marché du cinéma. Ça veut dire que notre pays est le 22e en population dans le monde, mais c'est le 3e pour son box-office, et que nos films français performent en France et dans le monde comme quasiment aucun autre. Et effectivement, au cœur de ce modèle, il y a le CNC. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le CNC, c'est pas un simple guichet de subvention, c'est l'architecte d'un écosystème unique et complet. Il n'y a pas d'argent de nos impôts dans le CNC. Le CNC repose sur une idée simple et forte, c'est que ceux qui diffusent des œuvres, les salles de cinéma, les services de streaming, les chaînes télé, parce qu'ils ont intérêt à la qualité de ces œuvres, c'est la base de leur modèle économique, eh ben acceptent de payer, en plus de leurs impôts pour l'État, une petite contribution au CNC qui est un investissement sur leur propre avenir. Et donc, 10% du billet de cinéma, 5% d'un abonnement de Netflix permet d'accroître la qualité des œuvres et de faire de la France un grand pays de cinéma. Très concrètement, cela veut dire que c'est en partie des entreprises américaines qui financent le cinéma en France. Mais pour être encore plus clair, si vous n'avez pas de voiture, vous payerez quand même pour l'entretien des routes par vos impôts. Si vous n'allez pas au cinéma, si vous n'avez pas d'abonnement Canal ou Netflix, vous ne paierez pas pour le CNC. Et donc ce modèle qui soutient une filière industriel, c'est un fleuron industriel de 260 000 emplois en France. On est quasiment sur l'impact économique de la filière de l'hôtellerie.
Mais sur la sélectivité, vous entendez bien Gaëtan Bruel. Ok, là vous venez de nous expliquer, c'est quand même très important, c'est le modèle économique. Vous dites qu'il n'y a pas d'argent public. C'est une taxe, bon, certains voudraient quand même en ponctionner et ça se passe régulièrement. Mais sur la, est-ce que vous n'êtes pas assez sélectif? Est-ce que vous arrosez du sable? Est-ce que c'est pas du gâchis? Et cet argent, il pourrait pas servir à autre chose au moment où on est tous en train de se dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses?
Bon, je crois que il faut revenir à deux, trois réalités simples. C'est un modèle qui est vertueux parce qu'il n'y a pas un euro de nos impôts. C'est un modèle qui est efficace, et il faut rappeler que le CNC ne fait pas que financer des œuvres. Le CNC soutient les 6000 écrans de cinéma qui fait que dans notre pays, 90% des Français vivent à moins de 30 minutes d'une salle. Et pour les 10% restants, on a 120 circuits itinérants qui font qu'il n'y a pas un seul désert cinématographique en France.
Mais il y a 30% des films qui font moins de 20 000 entrées.
Ouais, mais il y a 40% du cinéma français qui fait notre marché. Le cinéma français est beaucoup plus plébiscité en France, je l'ai rappelé, que le cinéma italien en Italie ou le cinéma britannique au UK. Je crois que si, effectivement, la place du cinéma change dans nos vies, dans notre société, c'est pas d'abord la faute des films. Dans notre rapport aux écrans, effectivement, nous passons un temps déraisonnable et qui finit par être dangereux sur des réseaux sociaux, des plateformes sociales et gratuites qui non seulement sont destructeurs de valeurs économiques, mais je crois abîment le collectif. Et je crois qu'il faut plutôt se réjouir de ce que le cinéma représente en France pour voir aussi que c'est un antidote pour cela.
Dernière question, c'est sur l'intelligence artificielle parce que les professionnels vous ont questionné, c'était le 9 février. Ils vous demandent de réserver les aides du CNC aux films fabriqués par des humains et pas par l'intelligence artificielle. Il nous reste une poignée de secondes, mais dites-nous Gaëtan Bruel ce que vous en pensez.
J'entends cette inquiétude, je la partage et ma réponse est claire. Pas d'auteur, pas d'aide. Accompagner l'innovation, oui. Remplacer l'humain, non. L'engagement du CNC, c'est vraiment de défendre les droits de tous les créateurs face au pillage de l'IA. C'est aussi de soutenir la filière pour monter en gamme. L'IA peut être utile et c'est surtout d'éclairer le public et les jeunes spectateurs ce tsunami d'images qui est en train d'arriver.
Gaëtan Bruel, le président du CNC, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Valérie vous a écrit du Tarn. Elle s'inquiète pour son fils qui travaille dans une entreprise sous-traitante de 5 personnes. Et sa supérieure, hiérarchique, lui tient des propos racistes, islamophobes et sexistes. Elle dénigre son travail devant les collègues. Alors que pourrait-elle conseiller à ce fils qui ne veut pas perdre son boulot, vous demande-t-elle?
Ce sont des choix évidemment très délicats à prendre, Valérie, quand un ou une responsable profère des insultes racistes ou à caractère sexuel et qu'il vous aboie dessus à longueur de journée. La première réaction est de se dire qu'il faut traîner ce genre d'individu en justice. En novembre, la cour d'appel de Versailles a confirmé le licenciement pour faute grave d'un directeur commercial. Il avait, excusez du peu, tenu de manière répétée devant plusieurs membres de son équipe des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et aussi stigmatisant pour un collègue homosexuel. Les juges ont considéré que ce cadre avait manqué à son obligation de sécurité et de santé à l'égard de ses subordonnés. C'est, comme vous l'écrivez Valérie, du sexisme et du racisme doublé de harcèlement moral. Mais dans cette affaire-là, la hiérarchie a réagi et viré son propre directeur commercial. Quand c'est le patron lui-même qui dérape, il devient difficile d'échapper à une procédure judiciaire qui intervient bien souvent après une rupture du contrat. Quoi qu'il arrive pour la suite, Valérie, il faut que votre fils conserve le maximum de traces, des SMS, mails, messages vocaux, des témoignages de collègues. Les certificats médicaux sont aussi utiles. Ça va peut-être vous surprendre, mais sachez que vous pouvez également enregistrer cet employeur à son insu. Le régime de la preuve a été assoupli en 2023. Les juges admettent désormais ce procédé quand il n'y a pas d'autre moyen de révéler des actes graves. Ils tiennent compte du fait que le dirigeant en est l'auteur direct et qu'il n'y a souvent ni RH, ni syndicat, ni témoin.
Mais Sandrine, est-il quand même possible de faire cesser ce genre d'agissement tout en conservant son boulot? Au fond, c'est ça le souhait de Valérie pour son fils.
C'est compliqué, mais c'est possible. Votre fils Valérie peut aller voir l'inspection du travail pour dénoncer ses comportements, mais il y a aussi le défenseur des droits. C'est une solution vraiment intéressante, confirme Delphine Borgé, avocate à Paris. Cet organisme indépendant peut déclencher une enquête dans l'entreprise et préserver l'anonymat du salarié qui a signalé les faits. Il ne remplace pas l'inspection du travail, ne prononce pas de sanctions. Ses experts proposent au besoin une médiation, mais ils rendent surtout des recommandations. Et si l'entreprise persiste dans ses mauvaises pratiques, ses avis peuvent être rendus publics. C'est un pouvoir de name and shame dissuasif. Et il y a de quoi faire. Dans son dernier rapport, le défenseur des droits constate une hausse préoccupante des discriminations ces 10 dernières années, que ce soit au moment de l'embauche, mais aussi tout au long de la carrière.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.